La FRAMA, la Fédération des radios associatives du Maine-en-Joux, vous présente les rencontres de la presse écrite et des jeunes Nigériens.
En tant que lycéen, nous on lit beaucoup les journaux gratuits comme le 20 minutes et...
Pas beaucoup, un peu, mais rarement. Et là, peut-être que je vais la lire un peu plus.
Le 30 mars dernier, quelques 1200 lycéens des Pays de la Loire étaient réunis au Palais des Congrès du Mans pour la 5e édition des Rencontres de la presse écrite et des jeunes Nigériens, une action éducative mise en place par la région des Pays de la Loire et le rectorat de Nantes. Développer un esprit ouvert et critique passe par une connaissance des médias et de la presse. 8 ateliers invitent des journalistes, experts, lycéens à débattre autour de sujets spécifiques et de leur traitement par la presse. Vivre ensemble, homophobie, inégalité, hommes-femmes, racisme, l'éducation réduit-elle les discriminations? Réponse avec les invités de Julien Rioux de Radio Prévert.
Bonjour et bienvenue aux rencontres de la presse écrite des jeunes Nigériens. Pour l'occasion, toutes les radios associatives de la FRAMA se sont délocalisées au Palais des Congrès du Mans pour vous offrir un compte-rendu des débats organisés toute la journée. Et en l'occurrence, nous traiterons ici du thème « Vivre ensemble » et plus précisément le sujet « Homophobie, inégalité hommes-femmes, racisme, l'éducation réduit-elle les discriminations ?» Pour en parler avec nous autour de cette table, je reçois Lola Gouffet et Baptiste Jourondeau qui ont la lourde tâche d'être super ambassadeurs. Vous êtes également élève en seconde au lycée Marguerite Yurcenar. Au Mans. Également avec nous Bernard Le Soleux, chroniqueur société au journal Ouest France, et Jean-Pierre Guénaud, écrivain, journaliste, éditeur et porteur de mémoire. Bonjour à vous tous. Alors, je vais commencer avec vous, Lola et Baptiste, les super ambassadeurs. Donc, vous avez préparé le sujet avant de venir. Et pendant votre préparation, est-ce qu'un constat majeur s'est dégagé sur les liens entre l'éducation et les discriminations?
On a en effet étudié des exemples historiques, mais on a surtout remarqué que même actuellement, dans notre éducation en France, il y a des inégalités frappantes par rapport au sexisme, à l'homophobie, au racisme, à la xénophobie, etc. Et que l'éducation, bien sûr, elle essaye de réduire par quelques campagnes de sensibilisation, mais elle véhicule aussi énormément de ces valeurs rétrogrades et discriminatoires.
Baptiste, est-ce que pour toi aussi tu as fait ce constat pendant que tu as préparé ?
Je dirais que oui, évidemment. Ce que j'ai vraiment remarqué, c'est l'importance de l'éducation des parents. Pour moi, ce sont les parents qui vraiment, ce serait difficile de dire, éduquent leurs enfants à être provoqués des discriminations, mais je trouve que c'est eux qui jouent le rôle le plus important, personnellement.
Pendant la table ronde, plusieurs facteurs ont été abordés, donc on les abordera tout à l'heure, hein, les médias voilà. Notamment. Donc pour toi, ce sont vraiment les parents qui doivent faire cette éducation.
Dès le très jeune âge, en fait, c'est eux qui commencent l'éducation, donc ce seront eux qui donneront les valeurs de base de toute l'éducation qui se retrouveront. Après, ça sera très dur de les changer, mais c'est toujours possible. Heureusement que c'est toujours possible. Sinon, dans une société vraiment mauvaise, mais moi, je pense que les parents sont la source principale de discrimination.
On peut faire une sorte de compte-rendu de cet atelier. Donc Jean-Pierre Guénaud, vous interveniez en qualité d'expert pendant ce débat. Alors l'éducation est-elle un gage de lutte contre les discriminations ?
D'abord, il faut rappeler un mot sur la notion de discrimination. La discrimination, qu'elle débouche sur tout ce qu'on a pu évoquer, l'homophobie, le racisme, l'ostracisme, l'antisémitisme ou bien d'autres choses, le fait d'être contre les roux, contre les obèses, c'est le rejet de la différence. Et ce rejet de la différence, les gens ne conçoivent pas souvent que c'est le rejet d'eux-mêmes, de leurs propres doutes, de leurs propres points faibles. En rejetant la différence, ils rejettent l'inconnu, ils rejettent ce qui leur fait peur, ce qui n'est pas eux. C'est d'autant plus paradoxal que nous vivons dans une société paradoxale où à la fois on a basculé dans une société de masse. Il y a actuellement 90% d'une classe d'âge qui dépasse le niveau du bac, là où on était entre 14 et 20% dans les années 70. Et puis par ailleurs, on est aussi dans ce que j'ai appelé dans un de mes livres la société du tout à l'ego. Une société où le narcissisme est exacerbé, où les gens ont tendance à être un peu en orbite autour de leur propre nombril, et où on leur donne une illusion, c'est qu'ils ne sont plus interdépendants, donc plus solidaires. Or, le problème qui coiffe notre débat aujourd'hui, c'est bien le vivre ensemble. C'est bien comment pouvons-nous faire de cette société dans laquelle nous vivons et dans laquelle nous allons vivre, une société où le vivre ensemble soit quelque chose qui se développe et qui s'épanouisse. Une fois qu'on a dit un mot sur cette discrimination, mais il est évident que l'interaction entre la discrimination, la lutte contre la discrimination, elle se fait par l'éducation, et que cette éducation a trois vecteurs principaux. L'école, le système éducatif, hein, la famille et les médias. Et on a vu au cours de notre débat qu'il y a là une responsabilité partagée. Et que ceux qui voudraient faire peser tout le poids d'une responsabilité éventuelle, soit sur le système éducatif à lui tout seul, soit sur la famille à elle toute seule, soit sur les médias, se tromperaient. Il y a là un faisceau d'outils, et qui ne sont pas les seuls, il y en a d'autres. On a évoqué les structures de la cité dans lesquelles nous pratiquons des sports, des disciplines culturelles. Il y a là tout un tas de systèmes qui partagent, qui sont porteurs d'éducation et de transmission de certaines valeurs, et qui donc peuvent concourir à éviter qu'au quotidien, nous ne devenions des praticiens de la discrimination. On était avec des publics jeunes aujourd'hui, donc il y a deux questions qu'on leur a reposées. Le jeunisme, c'est une forme de discrimination. Et puis on sait très bien quand on est en classe, car ils sont tous en classe, ils sont dans des classes de terminale, de seconde, de première, bon, eh bien on sait qu'on a tous pratiqué la discrimination. Quel est celui d'entre nous qui n'a pas participé à ce mouvement qui fait qu'on dégage des boucs émissaires dans une classe parmi les élèves? Notre ami journaliste à Ouest-France rappelait qu'il y a une étude aujourd'hui qui a rappelé que 10% d'enfants étaient victimes de discrimination, de harcèlement, étaient mis à l'écart. Et puis quel est celui d'entre nous qui, au cours de sa carrière scolaire, si j'ose dire, n'a pas participé au bizutage d'un prof? Hein, il y a des profs chahutés.
L'avez-vous fait vous-même?
Mais on l'a tous fait. On l'a tous fait parce que c'est le phénomène de Panurge. Il y a les effets très sains de la dynamique de groupe. Et puis il y a les effets haïssables de la dynamique de groupe qui font qu'on se laisse entraîner. Pour prendre la chose ultime, ce qu'on appelle les tournantes dans certains quartiers, les viols collectifs. Vous avez beaucoup d'individus qui, pris seuls, ne se livreraient jamais à ce genre d'horreur. Et puis c'est la dynamique de groupe qui va faire qu'ils vont se laisser entraîner. Donc la dynamique de groupe, elle est très positive en entreprise, elle peut avoir des effets fabuleux. Elle peut, dans les stades ou ailleurs, parfois avoir des effets désastreux. Il faut le rappeler.
Mais de toute façon, oui, également, la dynamique de groupe, hein, ça a donné, entre autres, des horaires comme 31-45 également, puisque justement, Adolf Hitler avait lu beaucoup d'ouvrages sur le maniement des foules et le mouvement de groupe, notamment. Bernard Le Soleux, donc vous êtes journaliste à Ouest-France.
Ah ouais,
est-ce que vous, justement, vous partagez aussi cette importance de l'éducation dans la lutte contre les discriminations?
Oui, ce qu'on a dit également, c'est qu'effectivement, il y a toujours un débat au sein de l'éducation nationale entre savoir si on est là, si les enseignants sont là pour instruire, et si le rôle de l'éducation, ça leur appartient pas. Et je trouve que ce débat est biaisé et faux, parce que instruire, de toute façon, ça ne suffit pas. Et en instruisant, de toute façon, logiquement, alors je sais bien qu'avec des mathématiques, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais en tout cas, avec un certain nombre de matières, le français, l'histoire, etc., particulièrement l'histoire et le français, on ouvre l'esprit des jeunes à la différence, on l'ouvre aux autres, et en même temps, tout en enseignant, tout en transmettant des savoirs, évidemment, on éduque. Et il ne peut pas y avoir de classe sans un minimum d'autorité d'abord de l'enseignant, sans un minimum de discipline, sans un minimum de respect des uns et des autres. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'effectivement, on a pris des exemples historiques. Vous évoquez le nazisme. Ce qui ressortait beaucoup, c'était la question de l'immigration qui taraude beaucoup les esprits en ce moment. Et effectivement, il faut rappeler quand même dans l'histoire, on se fixe en ce moment sur les musulmans. Sont-ils assimilables, pas assimilables? Faut-il construire des mosquées, pas construire des mosquées? Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut rappeler quand même que les différentes vagues d'immigration qui ont permis d'ailleurs à la société française de réussir, d'accomplir sa révolution industrielle, parce qu'on était dans un pays, dans un monde de paysans, eh bien ces différentes vagues, qu'ils soient italiens, il y a eu des massacres d'Italiens, et on pensait qu'ils n'étaient pas assimilables. Or, il y a eu des massacres, il y a eu des discriminations vis-à-vis des Espagnols, il y a eu etc., etc. Et on a évoqué en dernier un film qui est à l'affiche en ce moment, que tout le monde peut voir, qui est là, Les Femmes du Sixième. Ce sont les bonnes Espagnoles qui étaient discriminées en renvoyer dans les étages, les étages des chambres de bonne, et qui auparavant étaient bretonnes et qui ensuite ont été portugaises, etc., etc. Donc voilà. Donc c'était un débat passionnant. Il y a eu un gros débat aussi sur le sexisme. Et ça, c'est intéressant. De la part des jeunes, c'est une question auquel tenait beaucoup Lola, je crois.
Alors justement, sur le sexisme, pendant le débat a été évoquée la question de la discrimination positive, notamment des quotas de 40%. Alors pour vous, est-ce que ces discriminations qu'on appelle positives sont une avancée pour la lutte contre les discriminations, justement, ou alors est-ce que c'est reculé ?
D'une certaine façon, c'est de l'enfumage parce que c'est contourner le vrai problème. Le vrai problème, il est très simple. Il faut qu'on se remette les yeux en face des trous. Prenons un exemple tout simple. Si dans les 20 ans qui viennent, n'importe quel démographe sait que si dans les 20 ans qui viennent, il n'y a pas deux grandes vagues migratoires en France, nous finirons comme un peuple de dinosaures. La seule raison pour laquelle nous soyons un peu plus vitaux que nos voisins européens sur le plan démographique, c'est parce que la France, depuis la Révolution française, est une terre d'immigration. Et c'est ce qui a permis d'entretenir la jeunesse relative de la population par rapport à certains très vieux pays d'Europe qui ont été beaucoup plus regardants en matière d'immigration. Les Français, contrairement aux Anglais, ont refusé la Révolution industrielle et nous n'avons pu faire notre Révolution industrielle que grâce à des apports de main-d'œuvre étrangère. Donc tout ce qu'on peut souhaiter pour l'avenir, c'est une société melting pot, c'est une société de métissage. Il faut rappeler une chose toute simple qui invalide beaucoup de débats en cours actuellement. Nous ne sommes riches que de l'agrégation de nos différences. Et toute manœuvre politique qui tend à diviser les gens au lieu de les rassembler, toute manœuvre politique qui tend à nier ce fait, nous ne sommes riches que de nos métissages, que de l'agrégation de nos différences, eh bien, ce sont des gestes d'apprentis sorciers qui peuvent, un jour ou l'autre, si on n'y prend pas garde, mener la cité, la société, à une forme d'explosion nucléaire ô combien fâcheuse.
Et pour vous, Lola et Baptiste, ces histoires de quotas dans les entreprises, comment vous voyez ça ?
Du coup, dans cette discussion, l'intervenant disait que c'était un quota de 40%, ce qui me paraissait un petit peu ridicule pour le coup. Parce que si jamais on fait un quota, autant respecter la parité. Après, pour la discrimination positive, je suis un petit peu mitigée parce que ça me paraît vraiment dommage d'embaucher des femmes parce que ce sont des femmes et pas parce qu'elles sont compétentes. Parce que je doute absolument pas que c'est le cas. Mais en même temps, si ça a des résultats, moi je dis pourquoi pas. Par contre, je suis d'accord que le problème se situe bien, bien plus profondément que ça et que ça peut être une aide, mais c'est pas une solution.
Est-ce que les médias ont un rôle d'éducation contre les discriminations ou ils ont un rôle d'information, c'est-à-dire transmettre l'information, peu importe le propos tenu?
Là, l'information, souvent, n'est jamais neutre puisqu'elle répond à un choix. Je sais pas si, souvenez-vous, juste avant l'élection, c'était de 2002, quand les journaux télévisés en ont fait des tonnes sur ce pauvre monsieur, j'ai oublié son nom, qui avait été victime.
Sa maison avait été brûlée.
C'était épouvantable. Ça occupait tous les JT, etc. Bon, évidemment, c'est un choix. Et on s'est aperçu quand même après coup que la situation était bien plus compliquée que celle-là. N'empêche qu'on pouvait, à ce moment-là, penser que c'était manipulé et que c'était de l'influence. Bon, ce que je dis concernant les médias, c'est que je répète toujours que médias, c'est un mot attrape-tout et qu'il y a des médias tout à fait différents. Il y a des médias, des journaux d'opinion, des journaux généralistes. Il faut pas tout distinguer. C'est évident qu'il y a une influence de la télévision. Je racontais cette expérience où on me parlait de l'immigration dans une petite ville de province où il n'y avait pratiquement pas d'immigrés. Et j'entendais quelqu'un me dire « Oh là là, c'est épouvantable, on est envahi ». Et je lui ai dit « On va faire l'expérience pendant un quart d'heure, on va regarder si les envahisseurs sont là ». Et les envahisseurs, il n'y en avait pas un. Mais je l'ai vu à la télévision, c'est forcément. Et évidemment que les médias ont une responsabilité, ont normalement une déontologie, et il faut éviter les manipulations, il faut éviter les... Bon. On a tendance, je pense, par moment, à donner beaucoup trop de place à des faits divers qui n'ont pas de signification sinon d'exciter la populace quelquefois. Voilà, donc il faut faire très, très attention. Il faut de la distance. Il faut exprimer les différents points de vue. Il ne faut pas cacher non plus. Ce serait stupide de cacher l'existence et les idées du Front National. Mais il faut, si on doit les exposer, comme pour tous les autres partis, c'est pour en débattre et pour en discuter. et pour que les gens se fassent leur opinion et comprennent ce qu'il y a derrière.
Oui, mais ça pose un problème différent. Il faut relire les fabuleux éditoriaux qu'écrivait au sortir de l'occupation Albert Camus dans Combat à partir de septembre 1944. Le problème de la presse, il est peut-être un peu ailleurs. C'est un problème générique. Et de là découlera le fait qu'elle puisse servir d'exemple ou pas. Le pire des défauts d'un journaliste, disait Albert Camus, c'est de chercher à plaire. Dans tous les métiers, enseignant, journaliste, auteur, on peut faire la pute ou ne pas le faire. Et tout le problème est là, en fin de compte. Le problème est quoi ? Actuellement, dans les médias, l'audience est quelque chose de capital. L'audience conditionne les ressources, la publicité. Et donc, on peut être tenté de devenir racoleur. On peut être tenté de ne plus hiérarchiser l'information, de faire passer des chiens écrasés qui auraient fait la 12e colonne de la presse écrite il y a 30 ans et sur lesquels maintenant on ouvre les JT. On peut être tenté de ne pas vérifier l'information. Les moyens sont tellement chauds que maintenant on assène les nouvelles, on relaye les brèves sans même les vérifier. L'information, c'est comme un champ qu'on laboure. C'est quelque chose qui se travaille. Et là, il y a la crédibilité de la presse. Donc en fonction de la posture qui est celle et qui sera celle de la presse dans les années à venir, eh bien, elle aura des vertus éducatives ou elle ne les aura pas. C'est à elle, à cet égard, de montrer l'exemple et de savoir faire son propre ménage. Donc c'est un problème qui dépasse celui des discriminations. C'est un problème générique pour la presse. Il est passionnant parce que comme les enseignants, les journalistes sont des passeurs et comme les enseignants, ils font certainement un des plus beaux métiers du monde.
Eh bien, nous terminerons sur cette jolie note. Donc, je remercie, merci à vous quatre. Hein. Donc, je rappelle, merci à Lola Gouffet et Baptiste Gérondeau, que vous étiez super ambassadeurs et également élèves en seconde au lycée Marguerite Yourcenar à Romans. Merci également à Bernard Le Soleux, chroniqueur société au journal Ouest France, et Jean-Pierre Guénaud, écrivain, journaliste, éditeur et porteur de mémoire. Pardon, merci à vous.
C'était Vivre Ensemble, homophobie, inégalité homme-femme, racisme, l'éducation réduit-elle les discriminations ? Un plateau radio enregistré lors des rencontres de la presse écrite et des jeunes ligériens au Mans le 30 mars, animé par Julien Rioux de Radio Prévert, à la technique et au montage Jean-Luc Lambert et Nathalie Lotin de Fréquence Oscillée, une émission produite par la FRAMA, Fédération des radios associatives du Ménanchois.